Oui, et comme tu le disais, Mathias, un gouvernement qui s'affirme davantage à droite et pourtant un gouvernement qui ne fait pas tant de surprises que ça. Le projet de loi asile immigration était déjà en germe dans le programme d'Emmanuel Macron, même dans les quelques pages seulement qu'il consacrait, avec d'énormes photos de lui-même sur la page de gauche à chaque fois. Effectivement, il disait déjà que les demandes d'asile seraient réduites à moins de 6 mois. Le traitement de ces demandes d'asile serait déjà réduit à moins de 6 mois, recours compris. Ça, c'est un débat qui a lieu actuellement à l'Assemblée nationale et qui crée des dissensions au sein même du groupe La République En Marche. Peut-être une des premières fois où une telle dissension a lieu dans ce groupe de députés qui avait tendance à suivre quand même ce que demandait l'exécutif. Qu'est-ce que vous comprenez du débat aujourd'hui? Qu'est-ce qui change par rapport... Alors, on va revenir sur Dublin ensuite. Mais déjà, on va reprendre pour poursuivre le mytho de Mathias sur cette question-là de ce projet asile et immigration.
Alors, bon, moi, je ne suis pas un spécialiste hein, des projets de loi et de l'actualité, mais ce que je peux en dire, ce que je trouve intéressant, c'est que quand moi, j'ai tourné le documentaire en 2016, il y avait une loi Valls immigration qui venait d'être promulguée et qui changeait un certain nombre de choses pour la demande d'asile, pour les recours, pour plein de choses. Donc, il y a eu une sorte de... Enfin, tout le monde doit se mettre à jour, les centres, les avocats, essayer de comprendre tout ça, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais lu que le Conseil d'État avait dit au gouvernement, là, récemment, que, par pitié, ne refaites pas encore une loi immigration, parce qu'il y en a absolument tous les 2 ans, à chaque nouveau ministre de l'Intérieur fait sa loi immigration. Et du coup, le Conseil d'État disait, grosso modo, on n'a pas pu voir encore les effets de la précédente, bon, mauvais, la question n'était même pas là, mais on ne sait même pas ce que la précédente a pu changer. On n'a pas ce recul-là et on fait à nouveau une loi immigration. Donc, déjà, c'est pour dire qu'on est vraiment dans un affichage politique au-delà de toute question réelle de savoir ce qui se passe pour les personnes. Et ensuite, oui, de manière assez unanime, les assos sont montés au créneau pour dénoncer un projet de loi qui vient, encore puisque chaque loi immigration vient évidemment durcir les possibilités pour les demandeurs d'asile, notamment mais pas que, d'avoir des conditions correctes pour exercer leurs droits. Et donc en effet, c'est à première vue un nouveau recul de droit assez important.
Il est intéressant ce point que vous formulez sur les associations, parce que c'est celui du film. Faire ce choix de l'association, de ce point de vue de l'association, de forum réfugiés. Et pourtant, la question est plus compliquée que ça. Il y a des liens institutionnels qui s'élaborent, un parcours facilité avec Pôle emploi, etc. Et ça aussi, vous tentez de le montrer. Et pourtant, parfois, on a l'impression que c'est un peu occulté, alors que peut-être il aurait pu être souligné, non?
Oui, disons que c'est toujours compliqué. En effet, une association, je pense, devient à un moment, enfin, une association comme Forum Réfugiés, qui a plus de 200 salariés en Rhône-Alpes sur ces questions-là, qui répond à des appels d'offres, à des appels de marché sur le logement des demandeurs d'asile, devient en partie une institution pour moi, ou en tout cas elle a à voir avec l'institution à un moment. Et du coup, ce que j'ai tenté moi de filmer, c'est que j'ai tenté de filmer comment les demandeurs d'asile dans ce centre se frottent à cette institution qu'est l'association, que ça soit à travers les assistantes sociales, que ça soit... Enfin, voilà. Et donc, j'ai tenté, en effet, de comprendre ce frottement du point de vue du demandeur d'asile. Mais c'est sûr que je ne suis pas allé non plus... je ne suis pas allé traiter frontalement la question du rôle de ces associations aujourd'hui, de leur statut, parfois ambivalent, parfois compliqué, moralement, éthiquement, parce que je crois que ce n'était pas tout à fait mon sujet, même si, en effet, ça serait... un film à part entière assez intéressant à creuser, je suis d'accord.
Donc en ce moment, par rapport à la préfecture, où il y a un individu qui veut envoyer une lettre à la préfecture, et puis en fait l'association l'aide presque à faire en sorte que la préfecture ferme les yeux.
C'est sur l'accusé de réception à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a cette critique quand même qui est faite actuellement des associations de vouloir absolument tout le temps contourner les règles. Et il y a effectivement ce moment-là, qui est encore une fois un peu ambigu, où la travailleuse sociale explique qu'il va falloir qu'on trouve une solution. Pourquoi est-ce que l'accusé de réception est bien noté à la préfecture alors qu'ils affirment ne jamais l'avoir reçu?
C'est ça. Disons que la position, par exemple, des assistantes sociales est assez... Enfin, la position de l'association est compliquée dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce qu'ils font à la fois de l'accès au droit, c'est-à-dire qu'ils aident les personnes à écrire leur récit d'asile, ils aident les personnes, ce qui est leur rôle, hein, de faire cet accompagnement et cet accès au droit. et à la fois ils répondent à des injonctions de la préfecture, de l'OFI, etc. etc. Donc à partir de là, forcément, et ce que je trouve intéressant, moi, c'est puisque je parle toujours, j'étais dans le film, du point de vue du demandeur d'asile, c'est la question de la confiance, évidemment. Comment, quand on est demandeur d'asile et qu'on arrive auprès d'une association, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Donc l'association va évidemment dire oui, nous on est indépendants, il faut nous faire confiance, etc. Mais la confiance, ça ne se décrète pas, ça se construit. Mmh. Et donc à partir de là, comment le demandeur d'asile va pouvoir, dans ses entretiens, essayer de comprendre si la personne en face de lui est un allié, un ennemi, si c'est plus compliqué, s'il va falloir... Il y a toute une stratégie qui se met en place, qui est tout à fait normale depuis ces personnes.
Et pourtant, dans les entretiens que vous faites avec eux face caméra, ils ne parlent jamais de l'association. Ils n'en disent pas de mots.
C'est vrai.
C'est parce que vous ne voulez pas poser la question?
C'est sûrement parce que je n'ai pas beaucoup posé la question. Ou en tout cas que je ne l'ai pas gardé au montage si je l'ai posé. Je crois que vraiment ce lien-là à l'institution, je voulais le plus le faire passer dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma direct que dans les entretiens. Les entretiens, pour moi, c'était, ils ont tous lieu, les entretiens face caméra ont tous lieu dans les chambres, qui était pour moi le petit lieu de l'intimité, même si une intimité précaire, une intimité un petit peu contrariée. Mais voilà, c'était le lieu de l'intimité, donc c'était le lieu où se dépliaient des choses plus personnelles. Ça pouvait être l'évocation de la famille, ça pouvait être l'évocation du pays. Enfin voilà, il y avait des choses pour moi qui étaient plus personnelles. Et le lien à l'institution, je voulais vraiment l'avoir en cinéma direct, dans les bureaux.
J'en profite pour vous demander à quel point ces récits, ils arrivent naturellement des gens, et à quel point en fait ils ont été suscités par des questions qui sont coupées au montage. Je pense à un moment où une personne se met à montrer ses photos, les photos de son village natal sur son téléphone, par exemple.
Alors, c'est toujours un peu pareil. Moi, je vois vraiment l'entretien filmique, pour moi, c'est... C'est un moment vraiment de tension, pas au sens péjoratif du terme, mais un vrai moment de tension. C'est-à-dire que tout d'un coup, on allume la caméra, on a déjà préparé des choses ensemble, déjà discuté, etc. Et quand on allume la caméra, il y a quelque chose qui se tend, dans le bon sens du terme également. C'est-à-dire que tout ce qui va être dit va avoir une valeur encore un peu particulière, puisque c'est une adresse à la fois à moi, à la caméra, et du coup derrière... au spectateur potentiel. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, je sais que la personne en a conscience de ça, et moi, je le construis aussi. Et donc, du coup, évidemment, quand on va arriver à parler de la traversée, par exemple, pour la séquence dont tu parles, quand on parle de la traversée, de ce qu'on a perdu, etc., et qu'il me dit... et du coup, moi, j'insiste, en effet, je lui demande, mais est-ce que tu as tout perdu? Est-ce que vraiment, il ne te reste rien? Et il me dit, si, il me restait une carte SD là qu'on met dans le téléphone, sans le téléphone, plus que la petite carte mémoire. Et donc évidemment, de cette carte mémoire, je me demande s'il peut me montrer cette image, et là ça s'enchaîne. Mais c'est vraiment un moment comme ça qui se construit petit à petit dans une tension positive pour moi.
Vous êtes plutôt un raconteur d'histoire qu'un recueilleur de témoignages?
Les deux, je crois. Je pense que c'est assez indissociable. Le témoignage doit être mis en histoire, ça serait peut-être ça. Ce témoignage ne peut pas être uniquement brut comme ça, il faut aussi le mettre en tension, le mettre en histoire pour qu'il raconte quelque chose, qu'il ne soit pas juste une source ethnographique ou une source sociologique, mais qu'il fasse film à un moment.
C'est ce qui fait la différence avec le travail du journaliste, ce qui fait la différence avec le travail de Yann Moix sur, par exemple, la jungle de Calais. La migration est un chiffre, l'exil est un destin, je suis un témoin de vos actes, dit-il quand il s'adresse au président. Et c'est ça qui fait la différence avec un réalisateur de films documentaires, c'est qu'on n'est pas dans cette revendication, on n'est pas dans cette volonté de montrer véritablement de manière crue ce qui est en train de se passer.
Oui, je pense que... En tout cas, ça peut... Après, je ne pense pas parler au nom de tous les cinéastes documentaires, évidemment, mais en tout cas, c'est ce qui différencie mon travail, je pense, du travail journalistique, tout à fait louable, mais qui en effet cherche autre chose, je pense, qui est vraiment dans le fait, dans l'événement, alors que le cinéma documentaire, je pense, essaye de raconter autre chose, justement, à décaler le regard, Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, comment décaler le regard, parce que, justement, le journaliste fait très bien le travail de... Enfin, peut très bien faire ce travail de renseigner l'événement, de renseigner le fait.
Des questions un peu sur le film, sur l'entrée, l'entrée progressive, la oui, manière de s'insinuer dans ces endroits-là.
C'est assez marquant, ça. Au début du film, on va peut-être raconter un peu à nos éditeurs. On voit seulement, c'est une sorte de plan sur une porte entrouverte. Et je me rappelle de cette casserole qui bout, qu'on voit mais vraiment de loin. Et puis ensuite, on a, il me semble, un peu plus tard, un plan sur un homme au téléphone. Donc on entre dans son intimité, mais vraiment encore indirectement. Et puis seulement après, c'est quelques séquences après qu'on a, on a une de ces interviews face caméra, où là, on entre dans quelque chose de beaucoup plus cru. Et je me suis demandé si ce geste de nous montrer une arrivée très progressive de la caméra dans l'intimité, c'était une manière pour... vous un peu de questionner la personne qui regarde et vous-même sur ce rapport à l'intimité, à la pudeur aussi. Quelle est la place de votre... C'est toujours cette même question de l'objectivité, en fait. Quelle est la place de la narration et même du regard, en fait.
Oui, bien entendu, on est à la fois porteur de notre regard de cinéaste et porteur du regard du spectateur quand on fait un film. Et je pense que du coup, c'était très important pour moi de retrouver dans ce film, au début du film, comme tu l'as très très bien décrit, une certaine pudeur, une certaine progression dans la manière dont on allait rencontrer ces personnes. Comme je disais tout à l'heure, je ne les ai pas rencontrées... Elles sont pas venues à moi me raconter...
Pardon ? C'est arrivé comment ?
Et bah, du coup, justement, c'est un peu ce que je racontais avec cette histoire de cuisine, etc. Donc, tu parlais de la casserole précédemment.
C'est arrivé comment vous êtes tombé sur la route de ce centre-là en particulier ?
Ah, de ce centre-là. C'est arrivé... c'est un peu moi qui l'ai provoqué. Moi, je venais de... Enfin, je travaillais à l'époque sur... Exil adolescent, un autre film sur les mineurs isolés étrangers, et où la question de la demande d'asile se pose aussi. Et du coup, ce film qui était un film très long, justement, etc., à fabriquer, m'a donné envie de faire un film, comme je l'expliquais tout à l'heure, plus léger, plus léger pas au niveau de la thématique, mais au niveau de la production, sur cette question de la demande d'asile. Et vu que j'avais entendu parler du centre de transit de femmes réfugiées, je me suis dit, c'est là que peut se jouer certaines choses. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce qui est intéressant avec le centre de transit, c'est aussi qu'on y croise des personnes qui sont à des étapes très différentes de la demande d'asile. Des personnes qui viennent d'arriver, comme le premier personnage qu'on voit dans le film, qui a son sac poubelle sur le dos, qui est un érythréen, et qui débarque vraiment à Lyon et dans ce centre au moment où il est filmé. Et des personnes qui sont là depuis... plusieurs mois, dont une personne qui est filmée vers la fin, qui a la carte qui est reconnue comme réfugiée, qui vient de recevoir sa carte de 10 ans. Et donc voilà, cette manière de filmer les personnes à différentes étapes permettait aussi de raconter, sans avoir le temps long du suivi d'une seule personne, mais par cette manière de changer de personne à chaque fois, ça permettait de raconter un petit peu tout le processus de la demande d'asile.
Et sur cette pudeur dont parlait Léa, il y a aussi la question de la traduction. Il y a des moments qui ne sont pas traduits, qui ne sont pas sous-titrés dans votre film. C'est des moments qui sont moins importants, plus anecdotiques, ou c'est par ce souci même de pudeur qu'on décide de ne pas traduire cette phrase-là prononcée par la grand-mère à sa petite-fille
La question du sous-titrage, pour moi, c'est une question de cinéma. C'est-à-dire tout d'un coup, on se met à lire. On se met à lire quelque chose à l'écran.
Et du coup, ça détourne l'attention, c'est ça l'idée ?
Ça peut détourner l'attention, ça précise quelque chose qui est sonore d'un point de vue visuel. Et je vous prends un exemple très simple pour ne pas partir dans des grandes théories, mais tout simplement quand on est dans le bureau et qu'il y a une traductrice, qu'il y a l'assistante sociale et qu'il y a un demandeur d'asile. Du coup, il y a évidemment d'abord... l'assistante sociale souvent qui parle en français, cela va être traduit, puis la personne va répondre. Ça pourrait être intéressant d'avoir la traduction de la traductrice pour savoir si quel écart il y a entre ce qu'a dit l'assistante sociale et ce qu'elle traduit. ça pourrait être intéressant, donc ça aurait été un choix. J'ai pas fait celui-là parce que je voulais raconter autre chose. Je voulais raconter d'abord évidemment ce que racontait l'assistance sociale, puis qu'on soit uniquement sur le regard des personnes à qui on raconte quelque chose. Et pour être uniquement dans leur réaction, dans leur regard, pour ça, il ne faut pas sous-titrer, sinon on n'est plus dans l'image et on ne peut plus suivre cette émotion-là. Donc il fallait être juste dans le son de cette langue qu'on ne comprend pas et qui sont des mots comme ça qui viennent s'imprimer sur le visage des demandeurs d'asile. Donc voilà, c'est vraiment des questions de cinéma pour moi aussi et de choix. À un moment, on est obligé de faire des choix et ces choix impliquent aussi d'exclure des choses.
Donc c'était plus facile quand il y avait une traductrice que quand il n'y en avait pas. Parce que quand il n'y en a pas, il fallait sous-titrer. Pour comprendre aussi le décalage de la situation, l'impossibilité de se comprendre. Il y a une scène sur la compréhension du mot « escalier » qui est assez saisissante et même problématique un peu.
Ouais, tout à fait. On voit, enfin, ce qui m'intéressait aussi dans ce rapport à l'institution, c'était évidemment comment deux mondes se frottent et se comprennent pas toujours. Et la langue en est la face la plus... la face immergée, mais il y a plein d'autres choses. On comprend très vite qu'il y a plein d'autres choses, comme quand on leur parle des TCL et de comment ça va se passer, mais même la procédure d'asile, tout est compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a cette séquence où on essaie de parler d'escalier qui est où les gens ne comprennent pas. Ça dure presque 5-6 minutes comme ça, où il y a une incompréhension totale qui est un petit peu le lot de ces endroits-là et qui questionne en effet parce qu'on se dit. À un moment, on est sur des lieux qui accueillent des personnes venant un peu des zones de conflit internationales, qui parlent, ne fait pas tout le français. Et on se dit, tiens, ces institutions-là, ces structures-là n'ont pas l'air d'avoir pensé la question de comment communiquer ensemble de manière, et au-delà de l'anglais qui pourrait être la langue internationale, réfléchir à des pictogrammes, des choses, etc., qui puissent permettre une communication. Il y a plein de gens qui ont travaillé sur comment communiquer ensemble.
Est-ce que vous les suivez ? Alors, on sait que ça va très vite, il reste parfois que quelques jours, mais ceux qui restent plus longtemps restent quelques mois, un ou deux mois. Est-ce que vous les suivez après leurs affaires ? Est-ce que vous avez gardé contact avec les gens que vous avez interrogés ?
Alors, la plupart, non. C'était un peu le lot de ce centre de transit et ce qui avait été posé dès le départ. Ça a été comme ça, une espèce d'aventure qui a commencé le jour où je suis rentré et qui s'est finie le jour où je suis parti. Et en plus avec des personnes dublinées, enfin, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais qui ont été renvoyées du coup dans des pays tiers européens. Donc évidemment, j'ai totalement perdu la trace. Et finalement, il y a juste avec une personne qui s'appelle Abdourahman, qu'on voit pas mal dans le film, qui est un demandeur d'asile soudanais, que j'ai gardé des liens forts, parce qu'il y a une amitié un petit peu qui s'est créée, donc j'ai continué à le voir. En privé, à côté, comme personne. Mais sinon, c'est vrai que sur les personnes, je n'ai pas pu suivre leur parcours ensuite.
Un lien d'amitié, alors. Moi, il y a une question qui m'a quand même taraudée. C'est la question de, je ne sais pas comment le dire, mais la compassion, en fait. Ce sentiment un peu gênant.
La question de la compassion ou de l'empathie, qui sont deux facettes,
voilà.
Peut-être, d'une...
Janus.
Alors après, moi, je ne peux pas dire comment tu as reçu le film. Ce que j'ai en tout cas essayé de faire, moi, par exemple, c'est d'évacuer totalement la question du récit d'asile. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le film, les personnes n'expliquent la cause de leur fuite de leur pays et pourquoi ils sont venus en France. Et ça, c'était un principe de base du film, c'est que jamais le film ne racontera pourquoi les personnes ont quitté leur pays. Elles peuvent éventuellement évoquer certaines choses de ce pays, mais sans jamais expliquer le pourquoi. Et ça, pour moi, c'était une manière d'évacuer un petit peu cette position victimaire et de les poser plus dans cette question justement de l'attente et de l'impossibilité de construire leur présent.
C'est lié aussi au statut de demandeur d'asile, cette volonté de ne pas faire intervenir, cette idée de mérite, en fait. Certains mériteraient plus que d'autres, auraient vécu quelque chose de plus grave que d'autres qui leur permettrait de rester sur le territoire français.
Je pense que c'était pas la décision première qui a procédé à ce choix. Après c'est sûr que, en tout cas personnellement, j'ai un petit peu du mal avec cette mise en concurrence des récits, savoir qui mérite et qui mérite pas, qui est encore une fois une forme de tri et des étiquettes qu'on met nous sur des personnes qui ne le ressentent pas du tout comme ça.
Mon dernière question avant la fable de Miss Fontaine. On va parler quand même du règlement de Dublin. C'est le véritable problème du film. Et c'est un peu le sujet central du film quand même. Il y a ça.
En tout cas, c'est ce que je cherchais à te montrer. Ouais, il y a quelque chose qui se joue autour de Dublin qui est très fort, mais parce que ça occupait absolument les pensées de tout le monde quand je filmais, donc je ne pouvais pas difficilement faire abstraction de ça. Donc Dublin, en quelques mots, c'est un protocole européen qui permet aux pays européens de renvoyer les demandeurs d'asile dans un pays par lequel ils sont passés, où ils ont laissé leurs empreintes. Ce qui fait que la plupart des demandeurs d'asile laissent leurs empreintes, notamment en Italie, quand ils arrivent par les routes migratoires italiennes. Et donc la France peut renvoyer massivement les demandeurs d'asile en Italie en disant « bon, bah, c'est à eux de s'en occuper puisqu'ils sont rentrés par l'Italie ». Et donc un certain nombre de personnes du centre de transit étaient ce qu'on appelle des dublinés. C'est-à-dire qu'ils attendent la réponse de l'Italie ou de l'Allemagne ou du pays pour lequel ils sont dublinés pour savoir s'ils vont être renvoyés dans ce pays afin de déposer leur demande d'asile dans ce pays et non pas en France. Ce qui rajoutait de l'incertitude à l'incertitude. C'est-à-dire qu'avant même de savoir si on va pouvoir être reconnu comme réfugié ou pas, déjà, il faut attendre de savoir quel pays voudra bien s'occuper de notre demande d'asile. Et donc, du coup, c'est vrai que cette procédure de Dublin était vraiment au cœur des préoccupations de beaucoup des personnes qui étaient là.
Et c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a encore des manifestations en décembre 2017. Ça reste un problème. On passe à... Pardon, oui.
Non. En fait, c'est un sujet assez brûlant aujourd'hui parce qu'il y a aussi la question de la mise en rétention des personnes dublinées, des centres de rétention administratifs qui sont encore tout un autre pan de la question des politiques migratoires en France.
C'est peut-être le sujet d'un prochain documentaire. À voir, on passe à la fable de Miss Fontaine. Miss Fontaine est une anonyme qui fait du sujet de votre film cette semaine le héros d'une fable en alexandrin. Miss Fontaine, c'est à vous.
Amis et auditeurs, prenez donc un instant pour regarder le sol auquel vous avez droit, foulé par des colonnes de fourmis au sang froid, fournissant des colonnes de journaux inconstants. Les apercevez-vous ? Elles viennent de partout, portant des cargaisons bien plus lourdes qu'elles. Fugitives silhouettes fuyant mille séquelles, plus nombreuses que jamais, elles sont poussées à bout. Chacun connaît les liens, soudant la fourmilière, et si elle est vexée par notre pâle estime, si rien n'est arrangé, hors des communes cuisines, les fourmis pourraient bien rougir de colère. Elles ont franchi les mers, ont médité, ramé, pour finir par caler sur un rivage austère. On leur offrait prairies, mondes et fertiles terres. Aujourd'hui, elles affrontent, expulsées, diffamées. Bref, voilà des insectes qu'on appelle sectaires, demandant à leur langue de l'argile pour asile, pour construire un logis, après leur long exil. Or, elles sont dans l'attente des coups d'une hache sévère. La légère, rare colombe leur porte-t-elle la paix ? Non, mais plutôt la peine. En marche dans les rumeurs, elles décollent ombrageuses leur fragile demeure, afin qu'elles se dispersent en nuisibles suspects. Je ne sais qu'ajouter à ce morose tableau. Sinon, vous exhortez à combattre l'attente de ces hommes, de ces femmes, dans des camps, dans des tentes, et à voir, bien sûr, le film d'Antoine Dubos.
Ce film d'Antoine Dubos, il est un appel à l'engagement ? Je vais l'attendre différemment. Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour vous dire que le film a changé quelque chose dans leur perception du problème ?
Alors, bon, c'est une grande question. La question est-ce qu'on peut faire changer les choses avec un film ? Est-ce qu'on peut faire changer les
C'est pour ça qu'on lui laisse que 2 minutes pour pouvoir y répondre.
Et c'est pour ça, du coup, que je vais reformuler un peu la question pour pouvoir y répondre. Ouais. Je pense que la question, c'est moins de savoir est-ce que le film peut changer les choses que dans quelle mesure un film doit juste permettre... De bouger quelque chose à l'intérieur des personnes. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'un film puisse déclencher un engagement, ça me paraît très compliqué que juste un film puisse déclencher ça. Mais par contre, je pense qu'un film individuellement peut permettre à quelqu'un d'ajuster son regard, de l'affiner, de penser les choses de manière un petit peu décalée. Voilà. Et c'est ce mouvement-là, mettre un peu en mouvement l'esprit, les émotions du spectateur, qu'on recherche en documentaire. On essaye de se dire, bon, bah voilà, plutôt que de retrouver ce qu'on a l'habitude de voir, de retrouver des certitudes, l'idée c'est peut-être plutôt d'ébranler un petit peu le spectateur, soit en passant par de l'émotion, soit en passant par une autre compréhension. Mais voilà, ça peut être tout à fait intellectuel aussi, mais c'est cette idée de déplacement, je pense, qui est peut-être au centre d'une possibilité d'engagement, si on veut.
Merci beaucoup, Antoine Dubois, d'avoir été l'invité de la matinale spéciale Transistor Mission. Merci, Robin, de nous avoir invités. Merci, Léa.
Merci, Marie.
Excellente journée.
Merci Antoine Dubois pour cette interview. Merci Léa, merci Morgan, merci Miss Fontaine. Il est 8h30 et c'est l'heure du Flash Info.
Au national d'abord, la ZAD depuis lundi a commencé l'évacuation de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe l'avait annoncé lorsqu'il sommait en janvier les ZADistes d'évacuer les lieux avant la fin de la trêve hivernale. À 7h51 ce matin, les ZADistes ont publié un communiqué. Ils ont expliqué que les forces de l'ordre étaient arrivées sur les lieux à 6h et qu'il y avait notamment deux blessés graves dans les rangs des zadistes. Il y a eu également ce matin des tirs de grenades de désencerclement. Et enfin, je termine cette brève en vous disant que si vous êtes près de Notre-Dame-des-Landes, vous pouvez écouter Radio Klaxon à 107, la fréquence 107.7. La mobilisation dans les universités continue à Nanterre, notamment l'intervention des CRS lundi a mis le feu aux poudres. Une assemblée générale hier a voté le blocage reconductible de la fac. Près d'une quinzaine d'universités voient certains de leurs sites bloqués dans toute la France. À Lyon, c'est l'université de Lyon 2 qui bouge avec le blocage ce matin du site de Bron, mais également les quais qui sont occupés. Aujourd'hui a lieu à Paris une manifestation nationale et unitaire des avocats, magistrats et greffiers contre la loi de programmation de la justice. Malgré les concessions obtenues ces derniers jours par les avocats, la réforme de la justice continue d'inquiéter. On craint notamment le déclin d'une justice de proximité.
International maintenant au Brésil. Lula a passé ses premières nuits en prison. Il avait été condamné en janvier à purger une peine de 12 ans et un mois d'enfermement pour des faits de corruption qu'il a toujours nié. Cette peine a ensuite été confirmée le 4 avril, et ce, à 6 mois d'élection présidentielle dont il était donné favori. Les bagarres entre les pros et les anti-Lula auront émaillé les mobilisations de ces derniers jours. Difficile en tout cas de deviner l'impact que ce choc provoquera sur la destinée du parti luliste déjà durement touché et plus largement sur la destinée du pays.
Bien manie maintenant le 6 avril.
Mankong San Suu Kyi, maintenant âgé de 72 ans, est mieux réussi dans l'épreuve de la dissidence que dans l'exercice du pouvoir. Le partage de ce pouvoir avec la junte militaire, qui conserve les postes liés à la force armée, la rend relativement impuissante face à l'épuration et l'expulsion des Rohingyas musulmans au Bangladesh. Le bilan n'est pas reluisant non plus dans des secteurs comme la santé ou l'éducation, où elle a théoriquement plus de marge de manœuvre. Souhaitons que l'arrivée à la présidence d'un nouveau proche d'Aung San Suu Kyi inverse le cours d'un mandat mal engagé. Et c'est tout pour ce Flash Info.
Merci beaucoup Maë, merci beaucoup François René. Je ne l'ai pas vu installer la Cantor à 6h du matin aujourd'hui, et pour cause, elle faisait le tour des kiosques pour vous. Bonjour Marie.
Bonjour Robin.